Forum Opéra, émission spéciale.
Bonjour, bienvenue sur ce podcast consacré sur Forum Opéra à une table d'écoute comparative. C'est un nouveau format qui sera mensuel. Je recevrai chaque mois quatre invités pour comparer des versions de grands standards lyriques, toujours liés à la voix. Et alors, pour ce premier numéro du Cheveux en 4, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Do, Camille Derec et Alexandre Jamard. Alors, Philippe Do, merci de répondre favorablement à cette invitation. Donc, les lyricomanes te connaissent pour la belle carrière que tu, qui t'a amené à la Scala de Milan, qui t'a amené à Bastille, au Mariinsky, au Châtelet, enfin, j'en passe des meilleurs. Tu es évidemment amoureux du répertoire que tu chantes, mais tu connais aussi parfaitement le répertoire lyrique en général, pas que lyrique d'ailleurs, et l'amour pour la voix, l'amour pour les chanteurs, t'as même amené à prendre la présidence du fonds de dotation de l'association Unisson. L'association Unisson qui, je le rappelle, a organisé des événements pour rassembler de l'argent pour aider des chanteurs en difficulté. On se rappelle du concert solidaire d'Unisson au mois d'octobre dernier. Le prochain a lieu, je crois, le 16 juin à Bordeaux, si je ne m'abuse.
C'est ça, à l'Auditorium de Bordeaux.
Nous avons Alexandre Jamard également, Alexandre Jamard qui écrit depuis 2015 à Forum Opéra. Alexandre, tu es polymathe puisque tu es un jeune compositeur, tu étudies auprès de Gérard Pesson au CNSM de Paris, mais tu es également chanteur, ténor, je précise. Donc tes études t'ont aussi amené sur les bancs de sciences politiques, où tu as fait un master d'administration d'institutions culturelles. Et dans le cadre de ce master, je sais que tu as travaillé à l'Opéra de Francfort, l'Opéra de Vienne, également l'Orchestre de Paris. Et comme je le disais, tu écris depuis maintenant 6 ans pour Forum Opéra.
Bonsoir Céline, merci.
Et Camille Derec, pas besoin de le présenter, c'est le cofondateur de ce site, Forum Opéra, producteur animateur de nombreuses émissions sur Musique 3, la chaîne culturelle de la RTVF. Tu es d'ailleurs aussi le présentateur de la table d'écoute, dont le format est exactement le même que ce podcast d'aujourd'hui que nous consacrons à un air précis de Mitridate, Sedi lauri licrine adorno, qui est l'entrée du personnage principal de cette opéra seria. Alors, je précise, il a été écrit en 1770, je vous dis deux mots dessus parce que c'était quand même, ça vaut le détour. Mozart a 14 ans lorsqu'il écrit cet ouvrage, il est en voyage avec son père en Italie. Et avec sa capacité d'absorption à la vitesse éclair, il écrit un opéra seria dans un style et dans une écriture très prometteuse. C'est un opéra d'après évidemment la pièce de Jean Racine, c'est le poète turinois Cignasanti qui a écrit le livret. Et l'accueil a été globalement très favorable, même si après une vingtaine de représentations, l'opéra a été oublié pendant plus d'un siècle et a été rejoué à Salzbourg en 1971. L'air, en somme, je vais vous lire simplement les propos. Donc, rivage fidèle, si je ne vous reviens pas les cheveux couronnés de laurier, au moins mon visage ne rougit pas de honte et de disgrâce. Même des faits, je reste le même et je vous amène un grand cœur, un cœur en mon sein. Et je vous propose tout de suite d'écouter la version A.
Vergogna, di vergogna.
La version A de Mithridate, l'air principal du ténor. C'est l'entrée donc de Mithridate. Camille Derec.
Ah, c'est moi qui ai droit aux honneurs. J'aurais préféré peut-être que Philippe Do parle en premier parce que c'est lui le spécialiste. On peut peut-être dire quelques mots sur les enjeux vocaux de cet air qui est vraiment un air très spectaculaire et qui est peut-être aussi quelque part symptomatique de ce grand point d'interrogation dramaturgique dans lequel s'inscrivent les ténors seria de cette époque. On n'est pas ici dans un air à vocalise au sens roucoulade, on est dans un air où tout l'enjeu en fait est de trouver un équilibre entre les différentes voix du ténor, à savoir le registre grave et puis le suraigu spectaculaire qui doit sortir comme une plante qui pousserait de manière fulgurante en dehors de la terre. Donc quelque part, cette ère de Mithridate, c'est un peu l'ère du yin et du yang. Il y a tout ce qu'il doit y avoir chez un beau grand baryténor de cette époque. Il y a d'autres grands compositeurs qui ont écrit des rôles comparables. On pense à Monteverdi, on pense à Handel. Mais là, c'est vrai que le ténor mozartien est très spectaculaire. En tout cas, on a ici dans la version A, une voix qui est sans doute pas la plus belle plastiquement, qui parvient à se sortir de son air avec tous les honneurs, qui parvient à moduler avec grand talent, mais on sent déjà que c'est une voix qui n'est pas naturellement à l'aise dans le grave, que le grave est un peu construit sans doute par le studio, que c'est un grave qui trouve ses harmoniques dans l'intimité qu'on peut avoir avec un micro, que la voix se développe sans doute de manière un peu plus insolente au fur et à mesure que l'aigu apparaît, mais que malheureusement elle devient elle aussi de plus en plus blanche quand les aigus sont là. Donc je dirais que c'est une version qui est intéressante pour commencer parce qu'elle montre un peu le chemin, elle montre ce qu'on peut faire, mais à mon avis elle ne sera pas parmi celles qui retiendront nos suffrages à la fin.
Merci Camille. Philippe, est-ce que tu partages la même opinion au sujet de la version A ?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est une version intéressante. Déjà, quand on écoute cet air, on se dit qu'il a le mérite de pouvoir déjà chanter toutes les notes et d'arriver à la fin, d'arriver quand même aussi à faire la reprise piano. Mais au-delà de faire les notes et de faire ces intervalles qui sont emblématiques de cet air, et la grande difficulté quand même, c'est de chanter legato. Et je trouve qu'il manque de legato. Et hors du fait qu'il arrive à le chanter, ce ténor, je trouve qu'il, musicalement, ce qui me gêne le plus, c'est le manque de legato. Après, la voix est ce qu'elle est. Moi, elle ne me gêne pas. La couleur est intéressante. Le grave n'est pas très, effectivement, sonore. Et je pense que c'est le micro du studio aide beaucoup l'interprète. Ça serait intéressant de voir ce que ça donnerait dans une salle. Je pense que, quelles que soient les difficultés d'un air, la base, quand même, c'est de chanter les gâteaux. Et sinon, c'est musicalement, je suis un peu sur ma faim. Je reste sur ma faim. Voilà.
Est-ce que Alexandre, en tant que ténor également, est-ce que Alexandre, tu as ressenti aussi un manque de grave ou un manque de legato, ou tu as trouvé des choses intéressantes?
Je suis globalement assez d'accord avec ce qui a été dit, à la fois un léger manque de grave, c'est évident, certaines cassures entre les registres qui font qu'on a, on a ce manque de legato, et des sauts de registre, Dieu sait s'il y en a énormément dans cette ère. Ce que j'ajouterais pour rester pertinent, moi j'ai, en fait j'ai été assez positivement surpris au début, en me disant qu'il avait toute la voix pour chanter ça, et en fait c'est à la reprise où déjà dans la partie B, dans la partie centrale, où je trouve qu'il essaye de faire un sort musical à cette partie, de chercher l'émotion dans la voix, mais je trouve qu'il y a quelque chose de fabriqué, et donc ça devient un peu hésitant, un peu haletant, et je ne sais pas si ça convient tout à fait au grand prince qu'est Mithridate. Donc déjà là, j'ai commencé à avoir quelques doutes, et puis dans la reprise, musicalement, il essaye de faire quelque chose, mais les aigus me semblent un petit peu étranglés, donc ça baisse un petit peu point de vue de diapason, et donc c'est là vraiment que ça devient dommage, et qu'on se dit que certes, il a le mérite de chanter cet air et d'y arriver jusqu'au bout, ce qui est prodigieux, mais je pense que ce n'est pas tout à fait suffisant pour que je sois absolument satisfait de cette version.
Merci Alexandre. Il faut savoir que cet air a été particulièrement complexe dans sa genèse, puisque le créateur, le ténor Guglielmo Dettore, a fait réécrire à Mozart 5 fois l'air jusqu'à ce que cela lui convienne. Alors une version A globalement assez mitigée, on va voir si la version B vous convient plus.
non torno, fide spiagge a voi non torno, tinto al vento non corto il volto di
Et c'était la version B de cette terre de Mithridates, c'est di Lauri il crine adorno. Alexandre, qu'en as-tu pensé ?
Je trouve que cette version permet au moins de redonner du galon à la première, notamment grâce à une chose à laquelle on n'a pas tellement pensé dans la première, qui était l'orchestre, où j'avais noté qu'il y avait un beau son d'ensemble, on sentait que c'était bien sur instrument d'époque et que c'était très noble et en même temps assez articulé. Là, c'est bon. L'orchestre moderne, ça c'est pas un drame en soi, mais c'est un peu faux, c'est un peu pas ensemble. C'est pas aidé par la prise de son qui est très très sèche et très qui pardonne vraiment pas grand chose. Donc déjà ça paraît un peu pâle après la première. En ce qui concerne la voix, c'est très très clair et très très haut de position. Donc ça. J'ai eu un peu peur dès qu'il a commencé, puisque je me disais, en commençant comme ça, comment est-ce que les graves vont sortir ? Ils sortent avec peut-être moins de difficultés que la première, mais pas beaucoup moins. Et je ne suis pas assez chanteur pour pouvoir le dire, mais il me semble que c'est peut-être à cause de ces voyelles très, très ouvertes et très claires que pour le coup, le diapason, c'est assez cruel, puisque souvent les descentes sont un peu trop hautes. Enfin, il y a des défauts d'intonation manifeste. Et musicalement, je trouve qu'en fait, on entend encore trop la peine physique derrière la voix pour pouvoir être pleinement à l'aise dans une écoute. Et du coup, moi, je me suis plus focalisé sur les défauts et sur la question de est-ce qu'il va arriver à chanter ça jusqu'au bout que sur où est-ce qu'il veut nous emmener, malgré quelques tentatives musicales dans la partie centrale.
Merci Alexandre. Est-ce que cette opinion est partagée par Philippe ? Est-ce que Philippe, tu as retrouvé un petit peu plus de legato dans cette version ou tu as déploré des défauts plus manifestes ?
Il n'y a pas beaucoup plus de legato, je pense. Ce qui m'a frappé, c'est que la voix est à la fois plus solaire. Donc, il a commencé, je me suis dit, tiens, c'est une voix intéressante, ça me plaît, ça me parle. Et après, tout de suite, ça faisait une émission un peu ouverte, avec beaucoup d'instabilité. C'est un chant qui est à la fois... caricaturé, un peu plus italien, mais moins discipliné aussi. Il y a beaucoup de ports de voix, des sons par en dessous, des voyelles trop ouvertes. Du coup, les ruptures de registre sont beaucoup plus évidentes. Et puis, même si les variations sont intéressantes, quand ce ténor monte à l'aigu, ça blanchit, ça se rétrécit. Du coup, on se demande pourquoi monter à l'aigu pour montrer davantage de difficultés plutôt que de se concentrer sur une émission un peu plus noble, un peu plus corsetée, qui correspondrait finalement plus au personnage et qui irait dans un sens de simplification aussi de la manière dont il peut chanter cet air. Voilà, donc effectivement, je suis d'accord avec Alexandre, ça remet à sa juste valeur la version A.
Est-ce que ça manque un petit peu de simplicité, Camille, comme le dit Philippe, cette version B ?
Ça manque de beaucoup de choses. Je ne sais pas si la simplicité serait le premier mot qui me viendrait à l'esprit. Alexandre a tracé les bases des gros défauts majeurs de cette version et qui sont totalement rédhibitoires, à savoir que c'est un orchestre qui est totalement sans vie, qui est métronomique. On a même parfois l'impression d'entendre un orchestre qui aurait été dirigé par un ordinateur. Malheureusement, c'est même pas le cas parce qu'en plus, il y a des problèmes d'intonation. Et puis, il y a une prise de son qui est absolument abominable et qui pardonne rien, qui parvient pas à mettre en valeur le grave plus ou moins inexistant de l'artiste, en tout cas dans cette expression-là, et qui parvient pas non plus à mettre en valeur ce qui a l'air d'être son point fort, à savoir les aigus. Partant de là, on a une émission qui a l'air un peu molle, on a des variations qui sont sans grand intérêt, musicalement parlant. On peut pas dire que le chanteur soit arrivé en studio avec des traités de musicologie qui présentent les dernières variations à la mode mozartienne, ni que le ou la chef d'orchestre l'a beaucoup inspiré. On a l'impression, alors qu'on devrait entendre un grand de ce monde, d'être face à une sorte de gondolier assoupi qui est à deux doigts de tomber dans le canal. Franchement, je suis très déçu par cette version et d'autant plus déçu qu'on a l'impression que le chanteur a tellement à donner.
Merci Camille. Bon, face à une réaction assez unanime, je vous propose peut-être qu'on se débarrasse de cette version, qu'on la dévoile. Et puis, entre la A et la B, si vous deviez choisir, je crois qu'on est tous unanimes pour garder la A. Est-ce que vous avez des idées de cette version B? Il s'agissait de Dimitri Korchak, accompagné par l'Orchestre Symphonique de Madrid, dirigé par Evelyn Oppido. C'est un enregistrement qui date de 2018 et c'est chez Decca. Donc, Camille, tu voulais dire un mot ?
Oui, non, Korchak, qui est un ténor aussi exceptionnel, je fais partie de ceux qui ont la chance de l'entendre régulièrement dès son plus jeune âge, notamment dans un Othello mémorable où il était face à Grégory Koundé, Othello de Rossini. Et c'est un peu l'axiome qui prouve qu'on n'est pas forcément un grand mozartien quand on est un grand rossinien. C'est un art de la phrase et de la couleur qui ne vont pas de pair, même s'ils ont l'air de reposer sur des bases communes.
Alors nous allons donc poursuivre avec une troisième version au regard de la première. Je vous laisse tout de suite entendre la version C.
Yeah.
Nous avons probablement changé de siècle pour la version C. Philippe, est-ce que cette version C t'a particulièrement plu ?
Particulièrement plu, non. Il y a un côté très direct, franc, dans l'orchestre, dans la voix, qui est pas mal, j'aime bien. Là, on écoute effectivement au disque, donc ça ne pardonne pas. Je pense que dans le cas d'une représentation live, quelqu'un qui chante comme ça, avec cette franchise d'émission et puis une voix intègre, c'est quand même pas mal. Là, on écoute, on décortique. Moi, je m'imagine à la place du ténor, je serais liquéfié quoi, déjà. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Ce qui est étonnant, je ne sais pas si c'est un enregistrement live, mais je ne pense pas, le timbre est viril, dont j'aime bien. Bon, il n'essaye pas de faire un trill qui n'a pas. Pourquoi pas, mais du coup, ça manque un petit peu. Dans le da capo, il n'y a pas de variation. C'est pas mal, mais c'est un peu, du coup, acheter un disque pour écouter une version comme ça, ça me laisserait quand même un petit peu sur ma faim aussi. Mais je reconnais que la voix est intéressante, même si l'extrême aigu, enfin, si le contre-truc est un peu tiré, etc., mais c'est quand même pas mal.
Une vision assez directe aussi, Camille ? Est-ce que c'est ce que tu as ressenti ? Une grande ligne ?
Non, mais Philippe a entièrement raison. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et c'est vrai que si on était dans une salle de concert, qu'on entendait ça, peut-être que le premier réflexe serait de lui dire chapeau et pas de se mettre à la huer. Ici, on est dans un exercice très délicat, dans la mesure où l'émission s'appelle « Couper le cheveu en quatre », c'est précisément ce qu'on fait, et on réunit les plus grands ténors de l'histoire, ou en tout cas les plus grands titulaires du rôle, et dans cet exercice-ci, notre ami de la version C va sortir pas réellement avec les honneurs, dans la mesure où, c'est vrai, on retrouve peut-être le legato qui faisait défaut à la version A, mais en échange, on perd beaucoup de couleurs. Je suis pas d'accord pour dire que la voix est tellement virile, mais enfin bon, ça c'est finalement une appréciation très très subjective. Ce qui est étonnant ici, c'est que on n'a pas les couleurs, mais on n'a pas la langue non plus. Il y a un problème idiomatique qui est clair. C'est vraiment la prononciation de l'italien qui est la plus problématique jusqu'à présent, avec ces dentales qui sont venteuses. Et c'est très emblématique d'une autre grande langue européenne où la prononciation des D, par exemple, est souvent accompagnée de beaucoup de vent. On l'entend à des petits OV, par exemple, qui sont idiomatiques, mais pas de l'italien, d'autres langues. Alors, l'aigu, lui, est claironnant, mais il parvient jamais à être solaire. On l'imagine très volumineux, mais totalement monochrome et poussif. Alors, il y a un petit côté sportif qui est impressionnant, mais pour la musique, on reste sur notre faim, surtout qu'on est ici, j'ai l'impression, à entendre l'orchestre, à entendre le style au paléolithique de l'ère du disque. Et donc, on a, musicologiquement parlant, le service minimum.
Merci Camille. Alexandre, est-ce que tu partages cette appréciation sur l'orchestre, puisque tu évoquais justement l'orchestre de la première version intéressant ?
L'orchestre, malheureusement, j'en pense pas non plus grand chose comme Camille. Enfin, il y a un côté un peu sirupeux, tchaïkovskien, qui est peut-être pas tout à fait ce qu'on ferait aujourd'hui. Pour l'époque, de toute façon, on faisait avec les informations qu'on avait, donc c'est peut-être déjà bien. En ce qui concerne la technique, moi j'ai trouvé ça relativement impeccable car homogène. Il n'y avait pas les cassures de registre qu'on avait dans les deux versions précédentes, ce qui est déjà vraiment beaucoup. Il y a une belle longueur de souffle, mais bien sûr, comme mes deux collègues, je trouve que ça ne suffit pas pour une version au disque, puisqu'on n'a pas de cadence, on n'a pas de d'ornementation au da capo, pas de contraste de nuance. Ça fait un petit peu peu pour être vraiment tout à fait satisfaisant. On a un gros bloc de technique vocale, mais il faudrait s'autoriser un petit peu de musique, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit ici. Donc.
Alors, je crois, de l'avis de tous, qu'on va probablement pas continuer avec cette version. Donc, je vous la dévoile tout de suite. C'est la version de Werner Holweck. Werner Holweck, qui était ce grand ténor mozartien, il était accompagné de l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg, dirigé par Leopold Hager. Donc, c'est vraiment, on est en 77. Il ne faut pas oublier qu'on est 6 ans après la recréation de l'œuvre. Donc, on est finalement que 7 ans après la première création de l'œuvre, si on devait cumuler les représentations. Et c'est Holweck qui d'ailleurs avait repris le rôle. Alors, il était accompagné de Gruberova, Agnès Balza. Voilà, c'était des castings d'une autre époque. Je vous propose tout de suite de passer à la version D. C'était la version D. Camille, est-ce que cette version revient plus de ton univers esthétique? Est-ce qu'on n'est pas encore... On n'y est pas encore.
Je ne sais pas si il est question de mon univers esthétique, mais déjà, la première chose, dès qu'on entend l'orchestre et qu'on la compare aux deux versions précédentes, on se dit qu'il y a une vie, qu'il se passe quelque chose dans cette musique qui n'est pas censée être finalement l'incarnation du Seria plan-plan. Et dans cette version, on comprend déjà qu'il va se passer quelque chose, et puis on découvre le ténor qui est le premier baryténor, je pense, authentiquement de notre sélection. Et en plus de ce don du ciel qu'est la voix de baryténor, je ne sais pas si ça se travaille une voix comme celle-là ou si on la reçoit à la naissance dans le berceau, le chanteur n'oublie pas non plus d'être un musicien accompli. Alors il y a une très grande facilité dans le passage des registres. On est un peu là dans le passage du grave à l'aigu, dans quelque chose de l'ordre du phénomène Chris Merritt ou Grégory Koundé, qui étaient des chanteurs qui avaient des facilités déconcertantes dans le grave et qui passaient deux mesures plus loin à l'aigu le plus aigu de la terre. Tout ça sans jamais donner l'impression du moindre effort. Les tris sont magnifiques ici. Probablement les plus intéressants jusqu'à présent. Et puis par ailleurs, le timbre est assez agréable, même s'il n'a pas encore le velouté qu'on pourrait imaginer dans notre version de rêve. Mais bon, ça, évidemment, c'est discutable. Et puis à la fin, quand même, s'il faut être totalement honnête, il y a des petits effets à la limite du vérisme qui sont acceptables à la scène. On a entendu que c'était un live. On peut comprendre que ça viennent à l'interprète comme ça dans le feu de l'action. J'étais moi-même dans la salle ce soir-là, donc je comprends ce qui se passait. Au disque, on se serait peut-être dit, il confond les répertoires.
Tu étais dans la salle. Bon, alors, tu as une idée assez précise de qui c'est. Alexandre, est-ce que tu as remarqué aussi ces petits vérismes dont Camille parle? Moi, j'ai entendu des flûtes. J'ai entendu des flûtes.
J'allais en parler. Mais bon, au sujet des vérismes, moi je les ai entendus aussi, je les ai compris dès lors que c'est du live. Effectivement, au CD, c'est peut-être pas la peine, ça colle peut-être pas avec l'action et avec le personnage, mais ça se pardonne, d'autant que la reprise de son, enfin que son, le début de son da capo a l'air quand même assez débarrassé de tous ses affects, et donc tout à fait valable. Au sujet des flûtes, oui, c'est... En fait, en entendant l'orchestre, d'abord, j'ai eu extrêmement peur parce que je trouvais ça affreusement lourd. Et ensuite, à l'arrivée des flûtes, j'ai simplement remarqué que ce n'était pas la même version et qu'en fait, c'était affreusement lourd parce qu'il y avait aussi des bassons avec les cordes et que du coup, ça donnait un orchestre plus fourni et pas plus pâteux, tout simplement plus fourni puisqu'il y a plus d'instruments. Au sujet de la voix, je regrette un peu parce que je ne suis pas aussi enthousiaste que Camille. Enfin, il y a des facilités techniques manifestes. C'est un Mithridate plus juvénile, ça Camille l'a dit, c'est un peu moins velu que les versions précédentes, c'est pas nécessairement grave. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelques haches qui viennent parfois casser une ligne qui est sinon assez bien menée, mais dans les vocalistes, ça a tendance un petit peu à se briser un peu, je trouve. Donc c'est probablement une très très bonne version si on devait en garder 4 à la fin de celle qu'on écoutera, peut-être un peu moins puisqu'on n'en a que 7, mais je ne sais pas si je suis aussi enthousiaste que Camille pour le moment.
Merci Alexandre, tu vas peut-être nous aider à trancher, Philippe, au sujet de cette version D.
Trancher, je ne sais pas. Ce que je reconnais au ténor, c'est qu'il a un timbre agréable, mais une grande habileté à gérer la manière dont il passe au grave, à l'aigu. Pour moi, l'aigu, quand même, il le fait dans une espèce de mix appuyé, ce qui permet de garder le legato. J'aurais aimé qu'il puisse le faire avec une voix un peu plus, justement, appuyée, mais en gardant plus de connexion au grave. Mais ça marche très bien quand il doit le faire avec des intervalles supérieurs à l'octave, justement, par exemple, du ré au la. Quand on arrive sur des choses qui sont plus en ton contigu, comme à la fin, ré, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, si, la, si, do, si. Là, on sent qu'il t'a la peine. Et du coup, on sent peut-être les haches que sentait Alexandre. Et on sent plus le travail technique avec la couverture des voyelles. Et du coup, d'un coup, il se met à chanter d'une manière un peu différente. Mais je reconnais que c'est quand même très, très bien fait. J'aime bien la reprise piano qui est sur le souffle quand même, même s'il ne varie pas. Parce que de toute façon, à partir du moment où il change la couleur et l'affect est très clair, Moi, je ne ressens pas le besoin de variation. Et la dernière phrase, effectivement, il y a un peu d'effet Véris, mais je crois qu'il était à court d'air. Donc, il a changé un peu le rythme et pris une respiration au milieu. Donc, eh ben, ça prouve bien qu'en plus d'être habile techniquement, c'est un chanteur intelligent, je dirais, qui connaît bien sa voix.
Merci, Philippe. Alors, en regard de la version A, lequel Mithridate vous paraît le plus convaincant? C'est Mithridate qui, je le rappelle, revient après avoir annoncé, après avoir laissé courir le bruit de sa mort. C'est l'entrée du personnage, il arrive, et il est défait. Il est défait, Mithridate. Lequel vous paraît le plus proche de votre version de rêve, entre la version A et cette dernière version D, Philippe?
Alors là, tu me poses une colle, parce que tu vois, j'ai un peu prématurément critiqué le chanteur A, de la version A, et finalement, je ne suis pas si sûr que le chanteur de la version D lui soit supérieur, en tout cas dans mon goût. Il y a quelque chose dans la A que j'aimerais bien le réentendre, mais pour l'instant, il n'y en a pas un qui se détache franchement l'un de l'autre. J'aurais presque envie de dire qu'à l'arrivée, je préférerais le A, mais c'est purement subjectif. Hein.
Alexandre, tu partages son avis pour la A, on garde la A.
Je suis un peu dans le même cas, j'ai un peu du mal à choisir entre les deux. Ils n'ont pas les mêmes défauts, pas les mêmes qualités, donc ça les rend très difficiles de comparaison. Probablement que la D est plus fidèle au texte, puisque tout simplement techniquement plus à l'aise. Est-ce que pour autant il faut éliminer la A? Je ne sais pas ce qui suit, donc j'ai vraiment du mal à dire. Je les mettrais assez côte à côte, pour le moment en tout cas, sur le podium.
Alors il va falloir m'aider, Camille. Camille, tu choisis la version A ou la version D?
Oui, pour moi, il n'y a pas photo, c'est la version D.
Alors, donc, Alexandre va devoir trancher, puisque entre la version A et la version D, on a une égalité. Alexandre?
La version D, allez, quand même.
Alors, la version D qui remporte ce duel avec la version A. La version A, c'était Giuseppe Sabatini, accompagné par les talents lyriques de Christophe Rousset en 1999. C'est une version intégrale, contrairement aux versions précédentes que nous avons éliminées. C'est quand même une version référence, c'est une des premières versions que j'ai trouvées lorsque j'ai référencé toutes ces versions de Mithridate. Pas trop déçu, Philippe?
Pas du tout, alors j'ai honte, parce qu'en plus je l'ai entendu deux fois à l'Opéra de Lyon, quand ils ont enregistré, c'est la version avec Dessay, c'est ça, et Bartoli, et je l'ai réentendu au Châtelet. Je me rappelle qu'en live, ce qui m'avait étonné, c'était que pour un répertoire comme ça, on avait un timbre baritonnant et que je n'ai pas vraiment entendu là à l'enregistrement. Alors peut-être c'était déjà en 98 ou quelque chose comme ça, qui prouve bien que les souvenirs, des fois, qu'on a gravés dans notre mémoire n'est plus trop conforme à la réalité de ce qu'on entend.
Poursuivons notre écoute alors maintenant avec la version E de Mithridate.
Thank you.
version E, c'est Eli Lauri. Alexandre, un commentaire.
C'est marrant parce qu'il y a, je pense, deux façons d'aborder cette ère. La première, c'est de se dire « je suis un roi qui revient des morts et j'ai tout à prouver ». Et la deuxième, c'est « je suis un roi qui revient des morts et j'ai rien à prouver ». Et je pense que l'interprète de cette version E choisit cette option qui, moi, me convainc beaucoup, puisqu'en fait, il montre que ce n'est pas nécessairement un air difficile, que ça peut aussi être une opération de séduction et pas nécessairement un exercice d'haltérophilie. Et moi ça a tout pour me plaire, ça. Donc, oui, les aigus sont parfois, enfin, sont mixtes, on entend le grain de la voix, mais c'est ça qui donne toute la poésie à cette version, même si la prise de son est franchement assassine et si l'orchestre est un petit peu quelconque. Il y a rien n'est fait avec force, ni les graves ni les aigus, il y a une belle ligne. Enfin, moi elle est probablement très subjective, cette version, mais moi elle me convainc pleinement.
Camille, tu partages l'avis d'Alexandre ?
Pas vraiment, en fait. Je suis même assez surpris dans la mesure où... je suis d'accord avec Alexandre sur le fait que c'est une version qui est totalement satisfaisante, mais c'est un bien faible mot par rapport à ce que l'artiste donne, parce que c'est simplement confondant de facilité, en fait. C'est pour ça que ça a l'air de rien, comme ça. Mais un artiste qui est capable de passer du grave à l'aigu sans effort apparent et avec une telle technique de dosage, ça mérite un respect absolu. Je trouve qu'on est aussi face à un timbre d'une beauté absolument éblouissante, d'un vrai baryténor avec des vraies qualités graves qui se décharne pas totalement dans l'aigu. Alors, pour ce qui est de la voix mixte, moi, je suis le seul ici à pas être chanteur, donc je laisserai aux spécialistes le soin de... Oui, Céline, toi, tu chantes quand même un petit peu, mais je laisserai aux spécialistes le soin d'analyser, mais j'ai l'impression qu'on peut moins facilement dire que lui chante en voix mixte ses aigus que la version D précédente, dans la mesure où effectivement repose sur une technique mixte pour passer du grave à l'aigu, mais quand l'aigu arrive et quand il est là, il est stratosphérique et pavarotesque. Moi je suis tout simplement ébloui par le style, par la facilité et par le panache de ce chanteur, sans compter la beauté de la voix.
Et pavarotesque, c'est peut-être d'ailleurs la version de Pavarotti, on le découvrira. Philippe ?
Alors moi j'adore ce chanteur, c'est noble, en même temps c'est héroïque, c'est très legato. La voix est souple, elle a un vibrato régulier, le grave est très bien, la beauté du timbre. Et je trouve que justement les aigus, il les négocie très bien, il n'y a pas de rupture, mais il n'est pas pour autant en mix appuyé, il est vraiment en pleine voix d'aigu, et c'est ce que j'aime beaucoup sur cette version. Et je trouve qu'on a enfin le contour dramatique du roi Mithridate. Donc c'est pas un jeune homme, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui revient de la guerre, donc ça donne cette stature, on a quelqu'un qui chante avec toute sa voix et une vraie voix de ténor, je trouve. Donc j'adore, même si l'orchestre est un peu marmoréen et pas dans la finesse, mais ça correspond assez bien aussi à cette interprétation.
Je vois qu'on est tous emballés par la version E. Je vous propose donc de vous dévoiler l'identité du chanteur de la version D, c'est Richard Croft avec les musiciens du Louvre. On était en 2006, c'était Marc Minkowski. C'était une coproduction, je crois, Grenoble. Et Camille, peut-être tu pourras m'aider ?
Absolument pas.
Eh bien, c'était Marc Minkowski et les musiciens du Louvre pour une coproduction intéressante.
Et je dois dire d'ailleurs à ce titre que je me suis complètement trompé, je pensais que c'était un autre chanteur. Et donc quand j'ai dit que j'étais dans la salle, il faut le souligner, c'est pas vrai du tout, j'étais pas du tout dans la salle vu que je pensais avoir entendu un autre chanteur.
On passe à la version F.
Spiaggia vuoi
La version F. Philippe, la version F, est-ce qu'elle est moins convaincante ou elle apporte quelque chose de plus que la version précédente?
Après, c'est un peu, c'est juste après avoir écouté la version que j'ai beaucoup aimée, donc la E, c'est une très bonne version quand même. C'est un très bon chanteur. La voix est très belle, très lumineuse. Il y a des graves faciles. L'aigu, je pense, est un peu moins dans la manière qui me plaît personnellement et qui était celle de l'interprète de la version E. Il y a quelque chose de plus extérieur, de plus démonstratif, qui correspond aussi, selon moi, un peu moins au personnage que, tel que je me le figure, en tout cas. Voilà, mais autrement, c'est un très, très bon chanteur.
Alexandre ?
Moi, je voudrais tout d'abord souligner l'orchestre ici, qui a vraiment un très beau timbre. On entend vraiment les parties intermédiaires d'alto, quand il n'y a que les cordes, on entend un truc hyper transparent, diaphane, qui est extrêmement savoureux. Il y a une précision dans l'attaque qui est vraiment très savoureuse aussi. Ça donne tout le relief à la version, même si c'est du live et que la prise de son est un peu sèche. Donc, il y a un très beau travail qui a été fourni de ce côté-là. Le chanteur, c'est forcément somptueux. Il n'a rien à prouver. Il a tous les graves qu'il faut, tous les aigus qu'il faut, les trilles, les passages de registre. Enfin, tout ça est absolument sans conteste. Comme Philippe, je préfère de façon très subjective la voix du candidat précédent, mais ceci ne démérite pas pour autant. Il y a un très beau sens de l'ornementation, et c'est peut-être la première fois qu'on a un da capo qui est travaillé à ce point et fait avec autant de musicalité. Donc c'est quand même à souligner, je trouve.
Est-ce que Camille ressent les mêmes impressions? Je vois que les graves sont particulièrement remarqués dans cette version F.
Oui, ben, c'est là qu'intervient le phénomène d'usure quand on est dans ce genre d'exercice et qu'on a entendu beaucoup de versions. On vient d'entendre une version qu'on a adorée et celle-ci, d'un point de vue quasiment dramaturgique, paye pour son placement dans la compétition. C'est vrai qu'après la version E, moi, je me serais bien passé d'une version F et j'en ai surtout entendu les défauts, les petites scories. Alors, c'est vrai que la voix est très impressionnante, mais il n'y a pas ce côté baryténor triomphant de la version précédente. Donc, moi, je vais sagement rester à mon coup de cœur précédent et pas parler plus longuement.
Je vous propose donc qu'on écoute la version G et qu'on dévoile les trois dernières versions à l'issue de cette écoute.
Oh.
C'était la dernière version, la version G. Camille, un mot sur cette version G, au regard évidemment de la version E que tu as adorée.
Bah, la version G, ça touche à quelque chose de très intime et de très subjectif. C'est un des timbres les plus remarquables au sens premier de la définition. Et c'est comme les fromages de pays. On aime ça ou on n'aime pas ça, au même titre que les poisses ou que le morbier. Alors moi, j'aime passionnément cette voix. Je comprends qu'elle hérisse d'autres personnes parce qu'elle est effectivement d'une laideur assez spectaculaire et qu'à aucun moment elle essaye de dissimuler sa laideur intrinsèque. Mais c'est vrai qu'on est là face à quelqu'un qui a compris très tôt qui n'allait pas faire carrière sur les moirures de son timbre, mais qu'au contraire, il allait faire carrière sur les mille et un subterfuges qu'il allait pouvoir insuffler dans la musique afin de pouvoir rendre son art intéressant. Et donc, on est face à une des propositions les plus ornementales et les plus extravagantes, les plus spectaculaires techniquement qui soient, avec tous les effets de la vocalité seria qu'on puisse imaginer. Et en même temps aussi un organe qui, au niveau de la tessiture, assume grave l'écriture. Donc voilà, je crois qu'on peut pas dire que cet ovni soit le choix idéal, mais on doit reconnaître que cet ovni est bel et bien un ovni.
Alexandre, est-ce que tu aimes le fromage de pays ?
J'aime beaucoup le fromage de pays et pourtant, je suis de ceux qui... Alors, ça ne m'hérisse pas parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas de laideur manifeste dans la voix. Au contraire, je trouve que c'est le candidat qui a probablement le plus de facilité vocale de toutes ces versions. Et je trouve que c'est presque criminel d'avoir autant de facilité vocale et de faire ça aussi bien et de faire aussi peu de musique parce que certes il y a des ornementations mais ça suffit pas pour me faire avaler la proposition parce que alors on pourrait dire que c'est un du tempo qui est très très vif mais moi ça me plaît comme ça, c'est vraiment simplement qu'il essaye de nous convaincre absolument que c'est un air qui doit se chanter toute voile dehors et je trouve que la version E, c'est bien celle-là, prouve que ça c'est peut-être pas là qu'est la solution quoi. Donc moi je pense presque à l'inverse de Camille, que c'est quelqu'un qui a un organe phénoménal d'une beauté manifeste mais qui malheureusement en fait pas suffisamment pour être tout à fait au niveau de la version E, et c'est cruel parce qu'il passe après la version E qui était excellente, donc je pense que si ça avait été différent j'aurais peut-être pas dit la même chose.
Philippe,
pour d'autres raisons complètement différente que pour la version E, j'adore cette interprétation. Alors, je suis un peu partial parce que je connais cet interprète. Je trouve que si on passe le problème, si ce n'est pas pour moi, du timbre et du vibrato, etc., on doit reconnaître quand même qu'il y a une franchise d'attaque, c'est un chant musclé, alors on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça impressionnant et je trouve que c'est le chanteur qui a la meilleure technique de tout ce qu'on a entendu parce qu'il chante sur le souffle, la cadence qui n'est pas super belle, mais qui est quand même un exploit technique parce que c'est fait dans un décrescendo, ça reste sur le souffle, il y a un tri en diminuant, enfin, c'est absolument impressionnant. Les aigus sont attaqués frontalement, le grave, il y a une égalité de registre, la voix est ce qu'elle est, et justement, je pense qu'il prend un tempo rapide parce qu'il se connaît parfaitement et qu'il sait qu'il ne peut pas lutter sur un timbre soyeux avec un cantabilé dans lequel, sur un tempo plus lent, son vibrato pourrait un peu le desservir. Et il impose aussi l'image d'un Mithridate guerrier, une espèce d'urgence dramatique qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup.
Oui, je rejoins quand même Philippe et Alexandre. Camille, je sais que tu aimes passionnément ce chanteur. Je ne trouve pas que le timbre soit laid dans cette version. Le timbre est loin d'être laid. Il y a des airs où je l'ai entendu, effectivement, on l'entend et on le remarque plus. Mais l'urgence de l'interprétation est vraiment nous fait oublier justement ça. Et même le timbre est beau.
Donc, tu as bien fait de me remettre à ma place, Selim.
Et paf, et vlan. Les trois dernières versions, je vois quand même que on hésite un peu entre la E et la G pour Camille, Philippe. Alexandre.
Moi, c'est assez nettement la E pour des raisons purement musicales, parce que les deux ont une voix qui leur permet d'assumer pleinement le rôle et plus que ça, de vraiment nous transporter là où on ne l'aurait pas imaginé. Donc E et seulement pour la musique, pas nécessairement pour la voix.
La version E, d'accord. Alors déjà, on va commencer, je vous propose, par la version F. On va la dévoiler. On l'a tous aimé, c'est la version de Michael Spires avec Emmanuel Haim qui dirige les concerts d'Astrée. C'est prodigieux. Comme disait Camille, je crois, c'est la place dans le classement aussi qui a peut-être joué en sa défaveur.
Je me
Alors,
demande si c'est pas Christophe Rousset qui dirigeait l'orchestre de la Monnaie dans cette version-là.
c'est ce que je me suis demandé aussi.
Oui.
C'était Christophe Rousset encore? Je pensais que c'était cette version qui avait été.
C'est Christophe Rousset qui dirigeait l'orchestre de la Monnaie, production du Lab à la Monnaie quand elle était fermée, et donc il jouait dans une sorte de chapiteau géant.
Très bien, c'était donc la version de Michael Spires avec Christophe Rousset. Alors, la version E ou la version G? Je pense que tout le monde part sur la version E, avec mention honorable pour la version G. La version G, il s'agit de Rockwell Blake, vous l'avez reconnu. On est en 86 à Lyon. C'est bien ça, Camille?
Non, pas du tout, c'est l'enregistrement studio qu'il a réalisé avec un chef de deuxième ou troisième catégorie, qui est, je crois, Nicolas McKagan, et qui a un disque mozartien où il fait des choses absolument incroyables dans Idoménéo, dans je crois qu'il chante aussi le Ich baue Gans de l'enlèvement au sérail. Et voilà, c'est du Rockwell Blake, on aime, on n'aime pas, moi j'aime ça passionnément. Et ce qui était dingue avec ce chanteur, là on a entendu en studio, mais il était capable de faire pareil, voire encore plus impressionnant là. Live, et ça, c'est absolument dingue.
Alors du coup, je vais prendre des pincettes pour dévoiler la version E, puisque je me suis quand même royalement planté sur les deux dernières. La version E, vous avez des idées? Alors, je vous le dis tout de suite,
Gustav
c'est
Imbert,
Bruce Ford.
un Bruce Ford.
C'est Bruce Ford. Il est dirigé par Paul Daniel à Covent Garden en 93. C'est une version éblouissante et surtout la mise en scène aidant. Garder ce contrôle sur soi, le contrôle absolu, c'est époustouflant d'en arriver à ce niveau-là, encore plus au regard des autres versions. Camille, un mot?
Oui, je veux dire que Bruce Ford, c'est vraiment un chanteur qu'il faut réécouter, parce que quelque part, il n'a pas eu une si longue carrière que ça. On l'a entendu vraiment au sommet de sa carrière dans les années 90, fin des années 80. Il avait notamment enregistré une armida de Rossini avec Cecilia Gazdia, où il était un tout petit rôle de baryténor, mais qui est absolument spectaculaire. Et puis, il a eu quelques incursions comme ça a été le baryténor du début des années 90. Et puis, il a, j'ai l'impression, plus ou moins disparu, alors qu'il était encore relativement jeune. Je crois que la dernière chose dans laquelle j'ai entendu, ça devait être Il Sogno di Scipione avec Marc Minkowski au début des années 2000. Mais voilà, Bruce Ford, chanteur important dans l'histoire de la musique.
Merci Camille pour la précision. Je vous remercie tous les trois pour votre accueil. Tu disais d'ailleurs qu'on l'a entendu dans les années 90. Alexandre et moi, on l'a moins entendu dans les années 90. Nous en étions moins capables. Donc voilà, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau cheveu en
Selim,
quatre.
si je peux me permettre simplement une remarque, parce que j'ai essayé par message interposé depuis le début de l'émission de te faire dire quelque chose et tu ne veux pas le dire, donc je vais le dire moi-même. On a essayé d'avoir un panel mixte pour cette émission. Malheureusement, on devait être avec Stéphanie-Marie Degand qui a eu un petit problème de planning, mais elle sera là à la prochaine émission. Et donc ne nous posez pas la question de savoir si on ne peut pas faire ça aussi avec des femmes. Pour nous, ça va de soi de faire ça aussi avec des femmes. Là, c'est simplement la faute à pas de chance.
J'allais en fait conclure là-dessus, mais je te remercie beaucoup de la précision.
Pardon, Célim.
Il n'y a pas de problème. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Cheveux en 4, donc j'espère plus respectueux de la parité. Merci à tous et à bientôt.
Forum Opéra. Émission spéciale.